Vous écoutez
RMC.
Éric Zemmour, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Votre dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot, je l'ai là, sort demain. Vous n'êtes plus sur CNews, mais vous êtes sur BFM TV, hein, Éric Zemmour.
Le malheur des uns, c'est le bonheur des autres.
Oui, liberté de parler, liberté d'écrire, de vous exprimer, de débattre. Vous êtes là avec moi ce matin, honnêtement. Est-ce que vous vous sentez censuré? Sincèrement.
Est-ce que je me sens censuré?
Oui, parce que j'ai lu ça, j'ai vu que vous aviez tweeté, tout ça.
Vous savez, quand même, accordez-moi, je suis ravi de venir chez vous. Et je vous remercie de votre invitation. Accordez-moi que le CSA a inventé une catégorie spéciale pour moi.
Pourquoi?
Bah parce que ça n'existe pas, ça. Monsieur Olivier Roch de Maistre, Olivier Roch de Maistre, pardon, Roch Olivier Maistre, pas cher, qui me pardonne, disait lui-même en juin qu'il ne fallait pas comptabiliser les éditorialistes politiques et que c'était contraire à l'esprit de sa loi. Et trois mois plus tard, les vacances passant, il fait l'inverse. Moi, j'estime que, vous savez, j'estime qu'il a inventé une catégorie pour moi.
Arnaud Montebourg aussi est déjà comptabilisé, a été comptabilisé avant la déclaration de sa candidature.
Mais Arnaud Montebourg, c'est un homme politique qui a déjà été élu. Oui. Qui a été déjà candidat à la primaire, etc. Moi, je n'ai pas encore été élu et pas encore été candidat à quoi que ce soit.
Donc, vous voyez bien vous approchez d'une éventuelle candidature.
Non, mais, bon. Peut-être, mais en tout cas, c'est pas le sujet, vous comprenez?
Non, c'est pas le sujet.
Allez-y.
C'est pas le sujet. Non, on va poursuivre. Remarquez, il y a une solution simple, Éric Zemmour. C'est de dire je ne suis pas candidat.
Mais je ne dirais ni je ne suis pas candidat, ni je suis candidat.
Parce que si vous dites je ne suis pas candidat, vous retournez sur CNews.
J'ai bien compris. Mais
ça
si vous
facile.
Voulez, je pense que si vous voulez, je réfléchis à cette occurrence. J'observe, je regarde les autres, les candidats, je regarde les sondages qui ne sont pas inintéressants. Vous avez remarqué, sans être candidat, j'arrive
8%
à 10%.
10% Harris Interactive ce matin.
Voilà. Et c'est il y a une dynamique. J'ai commencé à 3. Alors que je ne suis pas candidat, encore une fois. Manifestement, mon discours, les idées que je porte sont entendues dans le pays.
Vous êtes sondé. Mm-hmm. Ça vous réjouit, ces chiffres vous réjouissent.
Je ne peux que me réjouir, puisque j'ai lu. Ça veut dire que les gens, vous comprenez, ça veut dire que les gens m'écoutent.
Oui.
Vous pourriez d'ailleurs parler du succès du livre. Non, vous savez que Amazon n'a jamais vu ça.
Mais
en
vous
15
allez en
ans
parler,
de présence
vous allez
française.
Très bien en parler.
On est à 200 000 d'impressions. On a réédité 100 000. Il y a déjà près de 20 000 ventes par Amazon. Je suis premier des ventes, alors que mon livre n'est pas encore en librairie. Ouais, vous voyez, il n'y a pas de sondage, je regarde aussi.
Je suis certain que vous allez bien en parler. En matière de propagande, Staline était un amateur.
Ah, ça, c'est.
Dites-vous.
Vous reprenez ma formule.
Mais oui, vous l'avez écrit, vous êtes un professionnel.
Non, pas du tout. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas un professionnel.
Vous êtes un
je
vrai
suis
professionnel
sincère.
De la propagande.
Non, je suis sincère, je ne fais pas de propagande, je défends des idées.
Bon.
Je n'ai pas le pouvoir, Bourdin.
Oui.
Je n'ai pas le pouvoir. Le
pouvoir, c'est la propagande. Le 27 août. Alors, le 27 août, on va reprendre les faits. Vous êtes journaliste comme moi.
Allez-y.
Et les faits sont indispensables. Le 27 août, vos soutiens, membres de l'association des amis de Zemmour, que vous connaissez bien, évidemment, affirmer avoir recueilli une centaine de promesses de parrainage indispensables pour être candidat à la présidentielle. Des tracts ont été envoyés à des élus. Alors, je ne vais pas lire ces tracts, hein, ils vantent votre candidature. Combien de promesses avez-vous recueillies aujourd'hui?
Je ne vous le dirai pas et je ne sais pas. Et je ne, ça reste, si vous voulez, je n'ai pas, vous savez, il n'y a
pas.
Parce
que vous ne savez pas ou ne me le dites pas parce que vous n'avez pas envie de me le dire.
Mais parce qu'il n'y a pas de candidature, donc il ne peut pas y avoir de parrainage.
Vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'on va chercher des parrainages.
Si, je le sais.
Bon.
Je sais que des gens s'enthousiasment pour moi. Je sais que des gens me sollicitent, veulent que je sois candidat, s'engagent. Ils préparent une candidature. C'est tout à fait légitime de leur part. Je ne suis pas un citoyen de seconde zone. J'aurai le droit à yes. De me présenter. Donc, si vous voulez, il n'y a pas là quelque chose de scandaleux. C'est tout à fait normal de se préparer éventuellement. Vous comprenez?
Mais l'association des amis d'Éric Zemmour, toujours la même, s'est constituée en parti politique. On est d'accord.
Oui.
Tout ça ne s'est pas fait à votre insu.
Non, mais Ça s'est fait, si vous voulez.
Avec moi, votre accord.
Non, non, moi je ne suis pas dans cette histoire.
Ah bon? Vous ne savez rien de tout ça?
Je ne sais rien de tout ça. Vous savez, moi. Mais non. Je vous explique. Je vous explique.
Ah oui.
Moi, il y a des gens
oui.
qui veulent que je sois candidat. Ça fait des mois que ça dure.
Ça,
moi, au départ, je n'y songeais pas. Au départ, je n'y songeais pas. J'étais bien tranquille à CNews, au Figaro, je faisais à Paris Première, je faisais mon travail le mieux possible. J'essayais d'éviter les innombrables procès, mais à part ça, je coulais des jours heureux. Et c'est uniquement parce que je regarde la situation catastrophique de la France, cette, si vous voulez, ce danger de mort du pays par le remplacement d'une population par une autre, par le remplacement d'une civilisation par une autre, que je m'interroge et je me rends compte qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions, qu'ont fait les sondages et qu'ont fait les préventes du livre, qui pensent comme moi et qui ont la même inquiétude que moi et qui considèrent qu'il faut que c'est la question essentielle, existentielle, j'allais dire, c'est-à-dire vitale pour le pays et que la classe politique, dans son ensemble, c'est ça la nouveauté par rapport à des temps immémoriaux, si j'ose dire, ne prend pas la conscience de ce danger. Alors,
je vais revenir sur cette préoccupation, selon vous, première préoccupation des Français, qui serait l'immigration et le grand remplacement. Je vais y revenir, Éric Zemmour, mais je voudrais terminer sur cette histoire de candidature. Quand annoncerez-vous votre candidature? En novembre?
Je ne sais pas. Je ne sais pas si je la lancerai. Je ne sais pas quand je la lancerai, si je la lançais. Je n'ai pas décidé. Encore une fois, vous sous-estimez, vous savez.
Je sous-estime quoi?
Mais
vous savez ce que
vous savez,
qu'aiment les Français, c'est la clarté, la transparence.
C'est pour ça
la clarté.
Vous avez vu dans le livre, je cite une phrase de Marguerite Yourcenar que j'ai relu cet été, les mémoires d'Adrien, qui dit une très belle phrase, ce qu'on appelait mon secret n'était que mes doutes et mes états d'âme. Je réfléchis, j'hésite encore, je suis là, c'est un changement de vie pour moi. Il faut comprendre, je ne suis pas un professionnel de la politique, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un professionnel de la candidature. Ma vie ne se réduit pas à se présenter tous les 5 ans comme d'autres. Moi, je ne me présenterai pas à Yes pour uniquement faire persévérer et un parti politique qui distribue des prébendes avec de l'argent public. Ce n'est pas moi, voyez. Ça, ce n'est pas ma vie. Donc, il est légitime de réfléchir, d'hésiter. Je ne vais pas faire comme tous les autres.
Votre candidature, c'est un blob.
C'est ma candidature pour toutes les 3
semaines. Sans vos amis qui le disent, votre candidature, c'est un blob. Vous savez ce que c'est qu'un blob?
Non, je ne sais pas.
Un blob? Vous savez pas ce que c'est qu'un blob? Un blob, c'est un... C'est à mi-chemin entre un animal et un végétal qui s'étale sur le sol. Qui s'étale. Après, sa vie, ça meurt.
Je ne connais pas.
On verra votre candidature. Vous ne connaissez pas. Bon, vous m'avez dit la candidature, novembre, c'est ça?
Je ne sais pas.
Décision novembre?
Je ne sais pas. Bon, je vous assure que je ne sais pas.
Franchement, vous ne savez
pas. Franchement, je ne sais pas.
Comment vous croire?
Mais vous avez tort.
Bon.
Il faut toujours me croire.
Oui,
je dis toujours la vérité, vous savez.
Bon.
Non, la vérité.
Non, votre vérité.
Non, il n'y a pas.
Votre vérité.
Il n'y a pas une vérité.
Votre vérité,
il y a la vérité.
L'immigration, votre vérité, c'est que l'immigration est la première préoccupation des Français. Et le danger qui menace la France.
Oui.
Le grand remplacement menace la France.
Oui.
Vous ne pensez pas qu'il y a d'autres préoccupations? Dans la tête des Français.
Il y a, ça vous avez raison.
Par exemple, le pouvoir d'achat. J'aimerais vous interroger sur ce sujet.
Mais vous avez raison.
Le pouvoir d'achat.
Attendez, Jean-Jacques, pour moi.
Est-ce que vous connaissez, simplement, j'ai une question. Est-ce que vous connaissez le syndrome du vin du mois?
Du vin du mois. C'est-à-dire qu'on a plus d'argent à partir du vin du mois.
Voilà. Oui, vous ne connaissez pas, moi non plus.
Voilà, exactement.
On est d'accord. On est d'accord.
Mais moi, je l'ai connu. Quand j'étais enfant. Vous savez, moi, je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Mon père était ambulancier, ma femme ne travaillait pas, ma mère ne travaillait pas, là-dessus c'est intéressant. Mon grand-père était cordonnier en Algérie. Je peux vous dire que moi je sais ce que c'est que les fins de mois difficiles. Bon. Moi, mon grand-père avait 9 enfants. Mon père m'a toujours raconté qu'il partageait une orange en 4. Donc vous ne me ferez pas le coup de le bourgeois qui n'a aucune notion des gens. Je sais très bien ce qu'est une vie
difficile.
Je veux
vous demander ce que vous proposez à ceux-là,
D'abord,
à ces Français-là.
Mais d'abord, je ne suis pas candidat pour l'instant. Donc je n'ai pas... Je n'ai
pas réfléchi.
Non, c'est pas que j'ai pas réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi sur beaucoup de sujets. Je n'ai pas à vous donner un programme, des mesures, des mesurettes, parce que ce n'est pas ni le lieu ni le moment. Vous savez, Emmanuel Macron Emmanuel Macron, qui était candidat, a attendu février-mars 2017 pour donner un programme. Et il disait, le programme ne sert à rien. Donc je ne vais pas, moi, en non-candidat, faire mieux que lui. Donc je sais très bien les difficultés des villes.
Donc votre programme ne sert à rien.
Il disait ça.
Oui.
Bon, mais vous voyez.
Vous reprenez.
Non, je ne reprends pas. Je vous dis qu'il y a des exemples prestigieux. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que je sais très bien les difficultés de pouvoir d'achat, de vie des gens, de beaucoup de gens.
Oui.
J'ai suivi, comme vous, les Gilets jaunes. Je parle avec des gens. Les gens viennent me parler. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a quelque chose d'essentiel qui est l'avenir du peuple français. Parce que l'avenir du peuple français, c'est tout simplement la vie ou la mort de la France. Je vais vous donner des exemples
obsession.
Très simples. Oui, obsession. Mais vous
obsession.
Savez tout ça. Mais oui, obsession.
C'est une obsession.
Mais oui, mais vous savez mais tout ça. Attendez,
pardon,
attendez,
ici,
attendez.
Ici, c'est pas vous qui guidez le débat, c'est moi.
Jean-Jacques, vous avez dit obsession. Attendez.
Attendez.
Non, mais je réponds à obsession. Faites-moi plaisir.
Allez-y.
Obsession,
alors,
ça vient
vous
du latin
plaisir.
Qui veut dire
oui.
Assiégé.
Oui.
Donc nous sommes assiégés. Donc oui, c'est mon obsession. Parce
ouais.
que la
vous
vie, la vie et la mort de la France, c'est une obsession. Et oui, je me sens assiégé, comme tous les Français. Vous savez, vous regardez des sondages. Vous avez 70 à 80% des Français qui vous disent « on ne vit plus aujourd'hui en France ». Qui vous disent « il n'est pas nécessaire d'être né en France pour être Français, il n'est pas suffisant ». Qui vous disent « la France est un pays de racines chrétiennes ». Tous ces sondages-là, on n'est pas 5%, 10%, 15%. Ce n'est pas quelque chose de marginal. C'est 70% des Français. C'est-à-dire que ce que je dis, moi, est absolument central. Et ceux qui disent le contraire sont marginalisés. Mais ils ne s'en rendent plus compte, ni les médias, ni les politiques.
Ça, c'est votre analyse. Éric Zemmour, elle vous appartient.
Je suis là pour ça.
Elle vous appartient.
Voilà.
Évidemment. La vaccination obligatoire pour les personnels des hôpitaux, maisons de retraite, les pompiers, les infirmiers, les aides à domicile, sinon contrat de travail suspendu, logique ?
Non, je
n'ai pas d'avis.
Non, j'ai un avis, je vais vous dire.
Oui.
Vous savez, on n'est pas obligé d'avoir un avis tranché sur tout.
Non.
Bon, deuxièmement.
Pourtant, vous avez des avis tranchés.
Non, j'ai une. Oui, bien sûr. Oui. Attendez.
Oui, oui.
J'ai une réflexion.
La nuance.
Non, j'ai une réflexion. J'ai beaucoup de ne croyez pas, je connais la nuance. J'ai une réflexion historique.
Allez-y.
Parce que je raisonne en fonction de l'histoire et du réel. Les politiques aujourd'hui, depuis 30 ans, raisonnent en fonction des communicants et des médias. Moi, je raisonne en fonction de l'histoire et du réel. C'est pour ça que, oui, j'ai des convictions sérieuses sur le sujet qu'on a abordé tout à l'heure. Maintenant, vous me dites, la vaccination obligatoire.
Oui.
Je vous dis, ça me gêne. D'abord, vous savez que c'est contraire à tout ce qu'on a dit, la loi, aux conventions internationales. On peut pas me dire d'un côté, oui, je vous assure, la vaccination obligatoire, c'est interdit par toutes les conventions qu'on a signées. Alors, moi, je veux bien remettre en cause des conventions internationales, ça ne me gêne pas. Je le dirai pour l'immigration. Mais il faut le dire, il faut être honnête. Là, on fait quelque chose de sournois depuis le début. Je peux comprendre les injonctions contradictoires qui animent le gouvernement depuis le début. Cette situation n'est pas simple, la gestion n'est pas simple, mais franchement, depuis le début, le gouvernement s'est planté tout le temps, avec changeant d'avis tout le temps. Souvenez-vous de Sibeth Ndiaye nous disant « les masques, je ne sais pas les mettre, on n'a pas besoin de masques parce qu'on n'en avait pas ».
Tant d'autres se sont trompés, ont changé d'avis.
Mais je suis d'accord avec vous, c'est vrai.
Nous n'allons pas établir la liste.
Surtout sur cette situation-là.
Oui.
Mais tout ça n'est pas simple. Et je trouve que là, le gouvernement est sournois. Je n'aime pas cette méthode.
Mais l'intérêt collectif
peut discuter.
Existe.
Mais oui, l'intérêt collectif
existe.
Mais vous avez raison, Jean-Jacques Bourdin. L'intérêt collectif existe.
Oui. Éric Zemmour.
Et on va en parler justement pour d'autres sujets.
Oui, justement. Que reprochez-vous à Marine Le Pen ? Qu'est-ce qui vous gêne chez elle ? Qu'est-ce qui vous gêne ?
Mais vous savez, j'ai rien contre Marine Le Pen. Je l'aime bien. Je la connais bien depuis 20 ans. Je l'ai vue débuter sa carrière politique derrière son père il y a 20 ans.
Elle vous a même proposé d'être tête de liste.
Non, elle m'a proposé d'être
sur sa liste.
D'être sur sa liste.
Oui,
donc je n'ai rien contre elle de personnel, comprenez.
Oui.
Mais je constate deux choses. La première, c'est que la classe politique lui a laissé, comme un privilège extraordinaire, le monopole de la lutte contre l'immigration. Et je pense que malheureusement, qui est pour moi donc le sujet essentiel, malheureusement...
Le seul.
Non, ce n'est pas le seul. Non,
lis, mais je caricature
mais
pas.
Mais si, vous caricaturez.
J'ai lu attentivement.
Ce n'est pas le seul,
livre.
Mais c'est le plus important. J'assume.
Dans votre livre, c'est le seul.
Non, pas du tout.
Ah bon ?
Non, je parle d'autre chose.
Ceux qui liront...
Oui.
Mais
je vous ai dit, j'assume.
Oui.
C'est le plus
alors, si vous assumez, c'est le seul.
C'est le
on est
plus important, c'est pas la même chose.
Oui.
Mais vous savez, Jean-Jacques Bourdin.
Oui.
Quand on
obsession.
Vit et quand on meurt, on ne vit plus. Donc tous les autres.
Bon, ça c'est certain.
Donc vous êtes d'accord que c'est plus important que tous les sujets de préoccupation qu'on a dans la vie, puisque c'est la vie elle-même qui est plus importante. C'est tout ce que je dis. Et là, nous sommes effectivement dans une question de vie ou de mort.
En train de mourir. Donc terminé avec Marine Le Pen.
Donc Marine Le Pen, je disais, premier problème, tout le monde sait, et autour d'elle aussi, même s'il ne l'avoue pas, et elle-même, je pense, le sait, qu'elle ne peut pas gagner. Elle ne peut pas gagner. On a vu au régional, on nous promettait.
Mais pourquoi, dites-vous ça?
Parce que tout simplement, pour des raisons qui tiennent.
Vous pensez qu'elle est nulle?
Non. Encore une fois, je pense que,
soyons sincères, est-ce que vous pensez qu'elle est nulle?
Je pense en tout cas que son
franchement.
Débat, laissez-moi finir. Je pense que son débat de 2017 a montré cruellement ses lacunes et a humilié ses électeurs. Je n'ai pas dit qu'elle était nulle, pas du tout.
Vous le pensez?
Mais pas du tout, je ne juge pas les gens comme ça. Je pense que, effectivement, elle a été humiliée en 2017 et qu'elle a humilié ses électeurs. Donc c'est tout. Après, donc ça c'est une première chose. Et deuxièmement,
oui.
Je pense que la droite, LR, parce qu'on pourrait dire, après tout, Marine Le Pen pourrait ne pas être au second tour. Mais je pense que la droite, LR, avec les candidats qu'ils ont, que ça soit Valérie Pécresse, que ça soit Xavier Bertrand ou Michel Barnier, ne passeront jamais devant Marine Le Pen. Donc on a une situation bloquée, qui est le rêve d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron veut Marine Le Pen en face de lui au second tour, parce qu'il est sûr de gagner.
Donc vous
je
dites,
pense qu'il faut bouleverser
rassemblez-vous
ça.
Derrière moi.
Non, je dis, manifestement,
et
ni
Marine
les
Le
uns,
Pen,
ni les autres. Non, je ne dis rien, mais je ne dis rien. Ça, c'est des discours politiciens. Moi, je ne suis pas là. Je dis simplement, il faut. Écoutez-moi. Mais écoutez
la
ce que
politique,
je dis.
Oui, allez-y.
La politique, écoute. C'est pas la politique aérienne.
Bon.
La politique, c'est des idées. Vous savez, je disais, je voyais un des soutiens de Marine Le Pen qui disait, Éric Zemmour confond la politique avec le combat des idées. Mais j'assume.
Ce sont
le
des
combat
idées.
Des idées, c'est la politique.
Alors,
sinon,
idée...
c'est le combat pour les places.
Ben, un combat qui a marqué l'histoire. Vous aimez l'histoire. Le 18 septembre 1981, que s'est-il passé ce jour-là?
Le 18 septembre 1981.
Non, vous ne vous souvenez pas.
Allez-y.
C'est un moment important. Mm-hmm. C'est à l'Assemblée nationale l'abolition
de
la peine de mort. Aujourd'hui, vous rétabliriez la peine de mort ou pas?
Je n'hésite pas. Je suis pas au pouvoir. En plus, c'est très compliqué d'abolir la peine de mort. Je ne pense pas que on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Maintenant,
vous êtes favorable à la peine de mort, donc.
Philosophiquement, oui. Maintenant, vous savez, une majorité de Français est favorable à la peine de mort encore aujourd'hui. On l'a aboli alors qu'une énorme majorité des Français étaient pour la peine de mort. Je pense d'ailleurs que, vous savez, quand on va exécuter les terroristes du Bataclan en Syrie sous ordre de François Hollande, on a rétabli la peine de mort. Donc on le fait sans le dire. Maintenant, c'était un symbole, la peine de mort. C'était le sommet de la hiérarchie des peines. Mais si vous voulez, c'est pas d'après moi quelque chose qu'on va faire tout de suite. Il y a d'autres priorités.
Bon, les priorités, la priorité, on la connaît chez vous, c'est la lutte contre le grand remplacement. La France est une citadelle assiégée par l'islam en pleine décadence, en danger de mort, une nation destituée, en voie d'effondrement. Je suis épuisé.
Bah oui.
Quand je vous lis, je suis épuisé. Les Français seraient, à vos yeux, endormis et soumis. Et il y a deux choses que j'aimerais que vous m'expliquiez. Vous avez dit, on refera la France avec des Français qui veulent rester Français. Là, je ne comprends pas.
Je vais vous expliquer.
Et puis, il faut que la France refasse des Français. Alors, que voulez-vous dire? Oui, c'est la même chose, mais que voulez-vous dire?
Alors, d'abord, quelques chiffres pour vous donner l'ampleur du phénomène.
Les chiffres seront vérifiés, hein, Eric.
Vous inquiétez pas, je les connais bien. Ils sont officiels. On a, par an, depuis des années, 200... Je vous donne le chiffre de 2019, parce que 2020, ça ne veut rien dire avec le Covid, etc.
Ouais.
En 2019, on avait 275 000 entrées légales. Je dis bien légales. C'est-à-dire, regroupement familial au sens large, étudiants, travail, très très peu. 14% du travail de ces 275 viennent pour travailler. Droit d'asile, pas de droit d'asile d'ailleurs, droit humanitaire, etc. Nous avions, ça c'est 275 000 légales. Nous avons en plus 130 000 demandes d'asile, dont à peu près 36 000 sont acceptées, et donc à peu près 90 000 sont déboutées, mais les déboutés ne partent jamais. Il y a 10 à 15% de déboutés renvoyés. Donc, vous voyez, ça vous fait encore une masse de plus de 120 000. Et on a un stock, si j'ose dire, de mineurs isolés, entre 40 et 50 000. Ça, je vous parle seulement des réguliers. Donc, vous calculez, ça vous fait entre 350 000 et 400 000 tous les ans. C'est-à-dire, en gros, la ville de Nice. qui tous les ans arrivent, évidemment pour la plupart maghrébins et africains, d'une énorme majorité de musulmans, alors que justement, si vous voulez, on a une distance culturelle énorme avec l'islam.
Alors, on refera la France avec des Français qui veulent rester français, donc avec des Français qui ne viennent pas d'ailleurs.
Attendez. Je finis mon raisonnement. Donc, je veux vous dire. Donc, au bout de 5 ans de mandat d'Emmanuel Macron, on aura en plus 2 millions d'étrangers de plus venus pour la plupart du Maghreb et d'Afrique noire. Je pense qu'il faut arrêter cette folie. Et que, au contraire, il faut, dans les 5 ans qui viennent, diminuer de 2 millions, par exemple. On pourrait envisager, effectivement, le départ ou la non-arrivée de beaucoup de gens. C'est ça qu'il faut inverser. Il faut inverser cela. Et, si vous voulez, vous me dites refaire des Français. C'était ça votre question.
Ben oui, mais répondez-moi, là, oui.
Oui. Alors, je pense, il y a un phénomène depuis 30 ou 40 ans de défrancisation. Cette expression, vous savez, c'est le général de Gaulle qui employait la francisation au moment de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que les Français, on ne leur apprend plus l'amour de la France, l'amour de son histoire, l'amour de sa culture, l'amour de sa grandeur, et on laisse les immigrés vivre comme au pays.
C'est la raison pour laquelle vous pensez qu'appeler son enfant du prénom de son grand-père, qu'il soit italien, portugais ou algérien, finalement, c'est ne pas aimer la France. Moi, je ne comprends pas. Vous dites, je protège les enfants parce qu'ils seront discriminés s'ils ont un.
Oui. Oui, absolument. Ah oui.
Vous êtes sûr de ça?
Ah oui.
Mais qui discrimine?
Les associations.
Qui discrimine?
Les patrons.
Qui est le coupable? Qui est le coupable? L'enfant qui porte le prénom ou celui qui discrimine?
Est-ce que je peux vous répondre?
Ben oui, mais je vous pose une question.
Mais je vais vous répondre. Et c'est très intéressant ce que vous dites. Il y a une étude très intéressante de 2010 de chercheurs français et américains pour Sciences Po qui s'appelle l'étude Diouf. On a pris 3 faux CV. Le premier, un CV repère qui est Amélie, on voyait un nom très français, Amélie Lombard. Et 2, on a pris un nom Marie avec un nom africain, Marie, autre chose, et on a pris un prénom Khalidja avec le même nom.
Oui.
De quoi on s'est aperçu? On s'est aperçu que le CV avec le nom français et le prénom français recevait quasiment autant de bonnes réponses que celui avec le nom africain, mais un prénom français. Mmh. Et celui qui était vraiment rejeté, c'était le prénom.
Oui, mais ça, c'est le constat.
Pourquoi? Ben oui, c'est un constat.
Pourquoi?
Pourquoi? Ben je vais vous dire, ils ont raison. Parce que il faut donner des
preuves. Le discriminateur a raison.
Le discriminateur a raison.
Il ne doit pas être poursuivi.
Non. Je sais qu'il est poursuivi aujourd'hui.
Mais oui.
Je sais, je connais la loi. J'ai moi-même été condamné parce que j'avais dit justement qu'il ne devait pas être poursuivi.
Oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que depuis 150 ans qu'on a une immigration, elle est italienne, vous l'avez dit vous-même. Qu'est-ce qu'ont fait les Italiens? Ils ont donné des prénoms français à leurs enfants. Aldo Nauri, Aldo Platini a appelé son fils Michel.
J'ai tant d'autres exemples contraires. Zemmour.
Il faut, vous savez, soit, écoutez-moi.
Oui.
Soit le prénom n'est rien, puisque c'est ce que vous avez l'air de dire. Et je ne vois pas pourquoi. On ne donnerait pas un prénom français. Soit il est marqueur de l'identité, et en plus, c'est ça la vérité. Et là, il faut justement donner des preuves d'amour. Il ne suffit pas d'aimer, il faut donner des preuves d'amour. Et là, vous savez pourquoi les immigrés arabo-musulmans ne donnent pas de prénom français? Parce que ce sont des prénoms chrétiens. Ils ne veulent pas, ils veulent persévérer dans leur être islamique. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent Mohamed.
Mais c'est le prénom de leurs ancêtres, ça leur rappelle leur terre natale.
Jean-Jacques Bourdin, est-ce que vous croyez que mon grand-père n'avait pas d'ancêtres? Est-ce que vous croyez que mon grand-père n'avait pas de père? Est-ce que vous croyez que mon grand-père n'est pas parfait? On n'est jamais parfait. Est-ce que vous croyez que mon grand-père n'avait pas de père? Je déteste cet argument. Est-ce qu'il y a les sous-hommes et les sur-hommes? Il y a ceux qui se sont pliés à la règle. Je vous rappelle que c'était une loi de 1803 jusqu'en 1993 et qu'il y a d'autres qui doivent s'émanciper de la règle. C'est ça que vous êtes en train de me dire?
Non, je vous dis simplement que pour honorer ses ancêtres, parfois dans des familles, et même souvent, on a envie de donner le prénom
on peut le donner.
De son grand-père.
On peut, je le sais, voilà, mais je le sais. Et on peut le donner en deuxième.
C'est pas une question.
Mais je sais. Parce que on peut le donner en deuxième prénom.
Bon,
on peut le donner en deuxième prénom. Oui, de temps en temps, il faut honorer la France aussi, Jean-Jacques Bourdin.
Mais on l'honore, la
non,
France.
Non, on l'honore pas.
Bah, tiens, vous savez, l'équipe de France de football, vous êtes amateur de football. L'équipe de France de football, des noirs, des blancs, qui jouent ensemble, qu'est-ce qu'on honore? Qu'est-ce qu'on honore quand on joue avec le maillot bleu? Honore qui?
On honore la France.
On honore la France.
Mais ces joueurs honorent la
France. Quelle que soit son origine.
Mais je suis d'accord avec vous. Mais
attendez. Ah bah alors.
Je vais pas.
Non mais je.
Ne me faites pas un procès en origine.
Mais
je viens moi-même de, du sud de la Méditerranée. Alors moi, je suis
devenu. Non mais.
Alors vraiment, ça ne me touche pas ce genre d'argument. Parce que moi, je viens aussi du sud de la Méditerranée.
Devenu un admirateur.
Moi aussi un berbère.
Un admirateur d'un antisémite notoire qui est Charles Maurras.
Mais,
bon, mais oui. Mais
vous savez,
pardon de vous le dire, mais c'est la vérité.
Je n'admire, vous savez, je n'admire pas Charles Maurras. Je lis Charles Maurras.
Oui.
Comme je lis Barrès, comme je lis Jaurès, comme je lis Léon Blum, comme je lis Zola.
Vous ne
voulez
pas terminer comme Jacques Bainville, hein?
Vous savez,
qui a regretté toute sa vie de ne pas faire de politique.
Vous savez, j'ai découvert ça. Vous savez, là, il faut dire aux gens qui est Jacques Bainville.
Oui, c'est un historien,
très grand historien,
très grand historien.
De l'Action française, qui était ami de Maurras, justement.
Oui.
Et qui je peux avoir une minute là-dessus?
Allez,
c'est parce que vous allez, ça va vous intéresser.
30 secondes,
absolument.
Parce que j'ai une dernière question.
Bon, en 1920, nous sommes en 1920, après la Première Guerre mondiale.
Oui.
Il annonce, uniquement en regardant le traité de Versailles, tout ce qui va se passer après. Hitler n'est encore qu'un peintre. Tout ce qui va se passer après, c'est-à-dire la remilitarisation de la Rhénanie, l'annexion de la Pologne, tout ce qu'on a connu, et la Seconde Guerre mondiale, uniquement en fonction de l'histoire et du réel. Et à l'époque, on l'insulte, on l'accuse de germanophobie, de bellicisme, etc. C'est pour ça que je me suis identifié à Jacques Bainville, parce que j'annonce la même,
mort
j'annonce une catastrophe, et on me dit vous souhaitez la guerre civile, etc. Non, j'annonce comme Cassandre le pire, parce que je crains que cela arrive si on ne fait rien. Et si on fait quelque chose, on peut se sauver de cela.
Alors,
mais pour l'instant, si on suit toute la classe politique, on va à la guerre civile.
Alors, Éric Zemmour, j'ai une dernière question.
Vous
avez été condamné pour incitation à la haine.
Je vous écoute, votre question.
Oui, incitation à la haine. Peut-on imaginer un président de la République condamné pour incitation à la haine? Je vous le dis sincèrement.
Deux choses. Vous savez que
mais
bien sûr, vous savez que le général de Gaulle a été condamné par contumace à mort.
Mais à quelle époque?
En 40. Oui.
Nous ne sommes pas sous le même régime.
Mais nous ne sommes pas sous le même régime, mais nous sommes dans une période aussi tragique.
Merci.
Et je pense que c'est un délit d'opinion. On veut me condamner uniquement parce que je dis des vérités.
Vous êtes une victime.
Oui, je suis une victime, en l'occurrence, de lois liberticides qu'il faudra abroger.
Dans tous les cas, la victime a pu s'exprimer ici.
Et
8h57, merci Éric Zemmour sur RMC et BFM TV.